Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadrap, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Marine. Elle a accepté de témoigner sur un sujet délicat, le burn-out, vécu malheureusement chaque année par bon nombre de soignants. Idées noires, dépression puis guérison, Marine s'est confiée avec beaucoup d'émotion et a démontré une résilience à toute épreuve. Je vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour Marine.
Bonjour Marielle.
Merci beaucoup de prendre de ton temps en ce 11 novembre férié.
Oui.
Pour venir à mon micro, je te remercie pour ça. Avant que la discussion ne commence, je te laisse te présenter.
Alors bonjour à tous, je m'appelle Marine, j'ai 25 ans et je suis infirmière depuis 4 ans maintenant. Je n'ai pas de passion à proprement parler, disons que je suis passionnée par les petits bonheurs de la vie, les choses qui sortent de l'ordinaire, l'audace, les voyages, faire du vélo la nuit, rester au lit la fenêtre ouverte quand il pleut, des choses comme ça, assez originales. Je pensais être une personne entière, indépendante et je peux me battre pour quelque chose qui me tient à cœur, comme tout envoyer balader si je l'ai décidé. Je partage ma vie avec un homme exceptionnel qui a le courage d'assumer nos différences et de m'aimer envers et contre tout depuis quelques années.
Bah, dis donc, c'est un super résumé. Alors, si je t'ai invitée aujourd'hui pour participer au podcast, c'est pour raconter une expérience professionnelle que tu as vécue qui est assez difficile et délicate à aborder. Et moi, quand j'ai lancé ce podcast, je tenais à tout prix à avoir quelqu'un à mon micro pour parler de la problématique du burn-out des soignants en général. Merci d'intervenir parce que je pense que c'est quelque chose de délicat à aborder, c'est très intime et je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir mettre ça en avant parce qu'on n'en parle pas assez et si on en parle, on n'en parle pas assez dans le détail. Donc merci pour ça. On va rembobiner un peu en arrière. Est-ce que tu peux me dire ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais toute petite ?
Alors c'est une très bonne question. Quand j'étais petite, je rêvais de vendre des fraises sous toutes les formes et d'être prof d'histoire. C'est assez original. Depuis, le destin a fait les choses assez différemment. Étant donné que la vie n'est jamais ce qu'on a prévu et que ma mère était malade, c'est ma grand-mère maternelle qui m'a élevée de mes 8 ans à mes 18 ans, et elle est mon modèle féminin numéro 1. Elle avait un fils en situation de handicap mental et physique qu'elle emmenait 4 fois par semaine en dialyse. C'est un traitement de suppléance qui n'assure que partiellement le remplacement de la fonction rénale. Le corps médical et paramédical a toujours été perçu comme des anges, des personnes protectrices pour mon oncle et ma grand-mère. Donc ça m'est venu assez naturellement pendant mes années lycée de vouloir devenir infirmière.
Alors comment ça s'est passé du coup, un bac général ?
Un bac économique et social avec okay. Option maths qui ne m'a servi à rien mais que j'ai eu avec une mention.
Oh, bravo.
Merci. Du coup, j'ai passé mes concours la même année que le bac. J'en ai passé 3 et j'en ai eu 2 sur les 3. Je suis rentrée à l'école d'infirmière à mes 18 ans. À l'époque, je me sentais forte, j'étais à l'aise avec moi-même, à l'aise avec ma vie, fière de moi malgré mon enfance compliquée, fière d'en être arrivée là. La première année d'école d'infirmière s'est très bien passée, sans encombre, mais c'est la deuxième année que ça s'est compliqué. Je suis allée en stage en pédopsychiatrie et là, j'ai bien compris qu'on pouvait pas tous rentrer dans un moule. J'ai détesté cette spécialité, j'ai détesté les infirmières qui se sont occupées de moi, qui m'ont formée parce qu'elles me forçaient à apprécier ce qu'elles faisaient. Je me souviens avoir eu un bilan de stage catastrophique et être allée en stage de rattrapage simplement parce que la psychiatrie, c'était pas mon secteur de prédilection. Et à l'époque, à l'école d'infirmière, il fallait avoir la capacité de s'adapter à tout type de situation, les plus simples comme les plus rocambolesques. Donc en y repensant, la pression, on la ressent dès nos études.
Et dès le début, il faut pouvoir s'adapter à des services dans lesquels on n'a pas forcément pour projet de travailler.
C'est ça, oui, tout à fait.
Ok, donc après cette première expérience de stage un peu compliquée, les études ensuite se sont bien déroulées. T'as trouvé un secteur dans lequel t'étais peut-être plus à l'aise qu'un autre ?
Oui, tout à fait. J'ai fait mon mémoire de fin d'études sur les émotions face à la mort parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez pendant les études d'infirmière. Et à mon diplôme, on m'a proposé un poste en oncologie que j'ai accepté volontiers. Il fallait que je mette les deux pieds dedans, en fait, il fallait que je me lance et c'était l'opportunité rêvée.
Toute jeune diplômée à 21 ans, du coup, oui. À peine, ça y est, t'es partie en oncologie.
C'est ça.
C'est un service qui n'est pas simple quand même pour démarrer.
C'est vraiment pas simple. J'ai pris une claque à 21 ans. On voit beaucoup de décès, de gens dans la souffrance. des gens pour qui on ne peut plus rien faire. Donc c'est très compliqué à 21 ans de s'imaginer que oui, les gens décèdent et c'est à moi de m'en occuper cette fois-ci.
Comment ça s'est passé la suite de ta carrière professionnelle après ça ?
J'ai quitté ma région natale et je suis partie au Pays Basque. Au Pays Basque, pour avoir un poste d'infirmière, c'est assez compliqué. Du coup, je me suis retrouvée en gériatrie pendant un an. Ça s'est pas forcément très bien passé, c'était pas mon secteur de prédilection. Donc ensuite, j'ai décidé de partir dans une autre ville et d'intégrer un service à l'intérieur d'un centre de lutte contre le cancer. Là, j'ai exercé pendant 2 ans en hôpital de jour. L'hôpital de jour, c'est un service où les patients viennent pour faire leur cure de chimiothérapie, des transfusions. Et à la fois, il y a aussi un service d'urgence juste à côté où j'allais de temps en temps aider. Donc ça a été très formateur. J'avais une équipe exceptionnelle, ce qui permet de tenir par rapport aux réformes dans le monde hospitalier. Vraiment, c'est ce qui m'a permis de tenir pendant ces 2 ans. C'était cette équipe exceptionnelle qui, au fur et à mesure du temps, devenait plus des amis et de la famille que mes collègues de travail.
Et toi, pendant ce temps-là, tu voyais les conditions de travail qui se dégradaient malheureusement progressivement ?
Tout à fait, oui. Tout s'est dégradé très progressivement. Après, je pense que ça fait déjà des années que ça dure. Mais moi, étant diplômée que depuis 2016, c'est vrai que je m'en suis rendu compte que durant ces 4 dernières années. Je pense qu'on était vraiment privilégiés au sein de ce centre de lutte contre le cancer parce que c'est un secteur semi-privé. Ça n'a rien à voir avec l'hôpital public, bien qu'on ait des difficultés aussi.
Tu as vu une différence vraiment entre le privé et le public à ce moment-là ?
Oui, puisqu'après ça, je suis partie en mars dernier, je suis arrivée à Paris et j'ai intégré l'hôpital public parisien.
La grande ville dans la ville, quoi.
C'est ça, exactement. Il y a des arrêts de bus à l'intérieur des hôpitaux, des stations de vélo. C'est un autre monde, en fait. C'est une autre vie.
Ouais, ça a dû te changer quand même. Hein.
Énormément. Énormément.
Et le poste que tu as intégré, c'est toi qui l'as choisi ? Comment ça s'est passé, du coup, pour trouver un boulot à Paris ?
Quand j'ai décidé de partir vivre à Paris, j'ai envoyé des candidatures à l'hôpital public et on m'a proposé un poste en chirurgie digestive. Poste que j'ai accepté parce qu'à ce moment-là, j'en avais un petit peu assez de l'oncologie. Je trouvais ça rébarbatif. J'y laissais clairement des plumes. J'étais fatiguée de voir toujours la souffrance et j'avais envie de changement. Donc j'étais vraiment pleine de bonnes ondes. J'étais vraiment dans une démarche positive. J'avais la sensation que la vie me souriait. Je venais de trouver l'amour. Je changeais de ville. Enfin, tout était. Les planètes étaient alignées, quoi. Et du coup, j'allais intégrer un nouveau service avec des nouvelles collègues, une nouvelle spécialité, des nouvelles prises en charge. Et tout ça m'excitait vraiment. J'étais très contente d'arriver à Paris. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai intégré ce service en mars dernier. Et au bout d'une semaine, je me suis vraiment rendu compte que c'était pas fait pour moi. Très, très vite, je me suis rendu compte que je me sentais pas à ma place, que j'avais besoin de faire semblant pour m'intégrer. Les problèmes que j'ai pu rencontrer, c'est ce qui m'a frappée. C'est l'équipe démesurée. On était 54 infirmières. Je ressentais vraiment de la pression par rapport aux médecins, par rapport à mes collègues et l'encadrement. Voilà, j'avais l'impression vraiment qu'il fallait que je sache tout avant d'être arrivée et c'était très compliqué pour moi à vivre.
Ouais, déjà une pression très très importante de la part de l'équipe, comme s'il fallait être dans l'excellence dès le départ. C'est dur ça, de démarrer comme ça.
Ouais, ça a été très très dur. J'avais l'impression de jamais avoir le droit à l'erreur, de jamais avoir le droit d'oublier quoi que ce soit. J'avais facilement des reproches aux transmissions le lendemain d'un jour de travail de la part de mes collègues parce que j'avais oublié de cocher quelque chose sur l'ordinateur ou je ressentais vraiment de... C'était pas de la... Comment dire ?
Pas de bienveillance, quoi.
Je sais pas si je peux dire ça. J'avais vraiment une sensation permanente de pas prendre soin des patients comme je le souhaitais à cause de la pression que je pouvais ressentir de part et d'autre.
C'était une équipe qui était installée depuis longtemps, d'être des infirmières qui étaient là depuis plusieurs années, qui du coup connaissaient le service sur le bout des doigts, ou qu'est-ce qui pouvait expliquer ça ?
Pas spécialement. Il y avait des infirmières qui étaient là depuis quelques années et d'autres qui venaient d'arriver. Il y a un turnover constant à Paris. Il y a beaucoup de postes à pourvoir pour très peu d'infirmières qui veulent venir vivre ici à cause des conditions de vie et de travail, ce que je comprends maintenant avec le temps. J'arrive pas à expliquer pourquoi cette équipe était assez compliquée à vivre. C'était une mentalité, en fait, où il fallait toujours faire remarquer que j'avais fait une erreur. Et puis, parallèlement, depuis quelques temps, j'avais commencé à me laisser faire, en fait, à plus du tout relever les paroles agressives, négatives. Autrement dit, j'acceptais littéralement qu'on me roule dessus verbalement. C'était vraiment une accumulation de choses depuis quelques temps qui faisait que je relevais plus rien. Pour moi, le silence restait le meilleur des mépris. J'avais beaucoup de mal à renchérir ou alors à me défendre.
Et dans un sens, tu te reconnaissais pas, ça fait pas partie de ton tempérament d'habitude.
Tout à fait, j'avais l'impression d'être une autre personne, d'avoir changé, de m'être laissé aller, d'être quelqu'un d'autre, vraiment quelqu'un d'autre, parce que c'était pas du tout ma façon d'être, ma façon de faire. Je suis plutôt quelqu'un de jovial dans la vie de tous les jours, avec beaucoup de folie. Si j'ai envie de faire des choses, je les fais et j'assume totalement. Et là, je me sentais juste m'éteindre à petit feu et ça me ressemblait pas du tout.
Et qu'est-ce que tu disais à l'époque ? Tu disais « ça va passer, ça va aller, il faut que je m'accroche ». Comment t'imaginais la suite ?
Alors j'ai commencé à en parler à quelques amis, très timidement, parce que ça faisait vraiment pas longtemps que j'étais arrivée dans ce nouveau poste. Et comme je le craignais, on m'a fait remarquer justement que ça faisait pas assez longtemps et que je réagissais de façon trop hâtive en fait.
Ces amis à qui t'en parlais, c'était des gens qui évoluent également dans le milieu médical, paramédical, ou des personnes qui sont pas du tout du métier ?
Oui, j'ai beaucoup d'amis infirmières. Comme j'ai quelques amis qui sont médecins aussi, donc toutes ces personnes savent ce qu'on vit tous les jours. Elles le vivent elles-mêmes et elles sont très courageuses de le vivre, mais on a toute une vocation en fait. On est vraiment toutes passionnées par ça.
Donc elles te conseillaient d'attendre, de laisser passer un peu de temps et puis d'essayer de t'habituer ou de te faire au service.
C'est ça.
Des choses comme ça.
Pour elles, c'était trop tôt. Je réagissais vraiment à chaud et il fallait me laisser du temps à moi-même. J'ai toujours été aussi comme ça. À vouloir tout savoir gérer avant même de... J'ai jamais su me laisser trop de temps, en fait. C'est vrai qu'on m'a beaucoup dit « ça va aller, ça va passer, il faut rester positive et prendre son temps », mais avec le recul, je me rends compte qu'il n'y avait que moi à ma place et que je pouvais seulement me comprendre moi. Et oui, au début, j'ai écouté toutes ces personnes qui me verbalisaient ça, mais en même temps, je savais au fond de moi que ça n'allait pas. Et que ça ne pourrait pas durer.
Est-ce que tu as pris contact avec quelqu'un au niveau de ton service, peut-être la cadre du service, ou est-ce que tu en as parlé à des collègues en disant « écoute, voilà, je voulais te dire, je me sens pas bien », ou « est-ce que je peux en parler avec toi, est-ce que tu peux m'aider ?»
J'ai essayé d'en parler avec certaines collègues pour tenter d'avoir un petit peu de soutien. Donc c'était des collègues de mon âge, diplômés depuis autant de temps que moi. J'ai pas eu de soutien du tout de la part de ces collègues. Certaines m'ont dit qu'il fallait que je me reprenne, que de toute façon j'allais manquer à l'appel dans le service et que ça allait... chambouler les plannings, si je venais pas, vraiment des paroles horribles.
C'est horrible ça, de faire peser le poids de la culpabilité sur les épaules de quelqu'un, c'est horrible.
Voilà, et moi-même, je ressentais beaucoup de culpabilité parce que je suis à un quart d'heure à pied de l'hôpital où je travaillais, et pendant ces 15 minutes, je faisais que de me demander pourquoi j'y vais, pourquoi je me force à y aller. Et effectivement, ce qui ressort, c'est si j'y vais pas, il va manquer une infirmière, et puis... Du coup, je vais culpabiliser de manquer à l'appel et de mettre mes collègues dans l'embarras, ma cadre, de trouver une remplaçante de dernière minute. Donc, en fait, notre santé, ma santé mentale, je l'ai vraiment mise au second plan à ce moment-là. Et j'ai continué machinalement pendant quelques temps. J'ai tenté de tenir. Et puis, j'en ai aussi parlé à ma cadre du fait que j'avais vraiment envie de changer de spécialité, de retrouver l'oncologie, parce que c'est ça, en fait, qui me faisait vibrer, c'est ça qui me passionnait, et j'avais vraiment envie de retrouver la relation avec les patients, la relation avec une équipe plus restreinte, et puis ma passion, en fait, l'infirmière que j'étais avant.
Elle a été compréhensible, la cadre, quand tu lui en as parlé ?
Au début, un petit peu, et puis finalement, ma mutation a été retardée de 3 mois. 3 mois, c'est très long à tenir. Ça peut paraître très court, mais en fait, c'est très long quand on va pas bien. Donc, j'ai craqué mi-mai. Depuis mars, j'ai craqué mi-mai, et j'arrivais plus à aller travailler, en fait.
Il y a eu un événement, quelque chose de particulier, ou c'est l'accumulation de tout ce qui venait de se dérouler pendant ces dernières semaines ?
Un petit peu des deux. Un matin, la cadre m'a appelée pour me dire que ma mutation était retardée au mois de septembre. Et là, du coup, en étant mi-mai, moi qui m'imaginais vraiment pouvoir partir en juillet grand max, ça m'a mis au fond du trou. Et je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. Mais vraiment, je pleurais à chaudes larmes, je n'arrêtais plus. Et c'est mon compagnon qui m'a dit « Non, tu n'y vas plus, aujourd'hui ce n'est plus possible. J'étais vraiment plus en capacité d'y aller, quoi. » Comme un rejet, en fait, j'ai contracté comme un rejet de ce service. Et puis, par rapport à l'incompréhension des personnes qui s'y trouvaient, je ne pouvais pas lutter.
Est-ce que tu as été suivie par un psychologue dans le milieu du travail, j'entends ?
Non, dans le milieu du travail, j'ai vu personne.
C'est quelqu'un en cabinet à l'extérieur, du coup ?
Oui, j'ai essayé de contacter la médecine du travail, mais qui ne m'a orientée vers aucun professionnel de santé. Heureusement, pendant cette période, j'ai toujours été très lucide avec moi-même. Du coup, j'ai pris contact avec une psychologue qui m'a tout expliqué par rapport à la dépression et au burn-out et qui m'a déculpabilisée au possible. Et je la remercie vraiment parce que grâce à elle, j'ai compris que la dépression et le burn-out, c'est quand on a accumulé trop de choses, trop de pression. Et en fait, c'est bénéfique parce que ça remet les choses à leur place. Mmh. Et c'est ce que je pense actuellement avec le recul. Les choses se sont remises à leur place et ça a été bénéfique finalement.
Est-ce que c'était la première personne à prononcer le mot de dépression ou de burn-out pour toi ?
Oui, c'était la première.
Ah. Et ouais. Ça fait quoi alors quand on entend ces mots-là ?
J'ai eu peur et j'ai beaucoup pleuré. Ma mère était dépressive et elle était déjà très malade quand j'étais petite. Et du coup, j'avais absolument pas envie de lui ressembler et pas envie d'être en dépression. C'est quelque chose qui me faisait très très peur. Et finalement, quand on déculpabilise, quand on explique les choses, ça va beaucoup mieux. Il ne faut pas avoir peur des mots. Je pense qu'on est beaucoup à avoir fait une dépression ou un burn-out et qui n'osons pas se l'avouer et pas en parler. C'est pour ça aussi que j'avais vraiment envie d'en parler avec toi aujourd'hui et libérer la parole pour que des personnes qui ont été dans mon cas se sentent moins seules.
Et il y a des personnes qui sont dans ton cas et qui écoutent le podcast, c'est certain. Et je pense qu'il y en a qui n'en sont pas encore conscients. Et peut-être que d'entendre tes paroles, ça va. Enfin, j'espère que ça peut donner envie à certains d'entre eux de consulter quelqu'un, puis de parler sérieusement de ce problème, et puis de faire ce qu'il faut pour s'en sortir, quoi, sincèrement.
Tout à fait. Consulter un psy n'est pas une honte, c'est juste une aide. Et quand on a besoin d'aide, il faut savoir où aller la trouver. Et moi, j'ai vraiment trouvé des professionnels de santé très à l'écoute, que ce soit une psychologue ou un psychiatre, parce que j'ai aussi eu besoin de voir un psychiatre pendant cette petite période. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de peur à avoir, ce sont des gens qui nous aident. Et face aux idées noires que j'ai pu ressentir, parce que oui, à cause de ce poste et à cause de cette mauvaise passe, j'ai pu avoir des envies des idées noires. Et à 25 ans, c'est compliqué à assimiler qu'on se donne corps et âme dans un poste qui ne nous convient pas. Et ça empiète sur notre vie privée et sur notre santé, alors qu'on devrait la prendre en priorité, notre santé. Et pas se laisser aller comme ça.
Et puis, c'est pas juste un poste, quoi. C'est des dizaines à des dizaines d'heures toutes les semaines.
Oui.
Il faut y aller en étant heureux de ce qu'on fait et en étant à l'aise. C'est trop dommage et c'est trop dangereux de...
Oui.
Ouais, de se mettre dans des situations comme ça. C'est pas juste un job, quoi. C'est sûr.
Voilà. Être infirmière, c'est viscéral. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Pour moi, c'est viscéral. C'est un poste que j'ai voulu faire grâce à ma famille, grâce à mon oncle handicapé qui est décédé aujourd'hui. Et sans lui, je n'aurais jamais eu cette passion et cette envie de voir un petit merci ou de voir des yeux pétiller d'un patient ou d'une personne. Ça vaut tout l'or du monde pour moi et je pense que tu peux me comprendre parce que toi aussi, tu dois le vivre au quotidien. Et voilà, je fais ce métier avec mon cœur et je ne me verrais pas faire autre chose tout de suite.
Oui, donc du coup, toi, après cet épisode de burn-out, tu n'as jamais envisagé de changer de voie, de partir sur une autre carrière. Non, tu t'es dit que ce métier, il était fait pour toi, mais t'étais peut-être juste pas au bon endroit, au bon moment.
Alors, pendant un moment, je me suis demandé si je ne voulais pas continuer dans ce métier, mais dans une autre branche. Je me suis renseignée pour faire une formation en hypnose. Et j'aurais aimé aller exercer dans les blocs opératoires ou dans des centres exprès pour vraiment inclure l'hypnose dans la prise en charge thérapeutique. Finalement, l'oncologie me manquait tellement que je suis retournée en onco et c'est ça qui m'a sauvée. J'ai toujours dit à tout mon cercle d'amis et à mes proches qu'un jour, j'enverrai tout balader et j'irai élever des chèvres dans le Cantal. Ça n'est pas arrivé, mais en attendant ce moment, voilà, je suis en oncologie et ça me plaît énormément.
Moi, je dis souvent devenir fleuriste. Je ne dis pas que c'est un métier facile du tout, mais parfois, quand je rêve de quelque chose de différent, je me dis, ouais, être entouré de fleurs. Alors, tu vois, c'est des chèvres dans le Cantal.
Chacun son délire.
Ah voilà, chacun son truc. Mais je me dis, bon, ça me ferait peut-être du bien de temps en temps.
Oui.
Et puis ça a été le début de la guérison dans un sens pour toi, de changer de service et de retrouver tes marques et quelque chose que tu connaissais déjà, redémarrer une nouvelle histoire ailleurs.
Oui, alors le début de la guérison, je l'ai senti cet été pendant mes prises en charge avec la psychologue et le psychiatre que je voyais, qui m'ont vraiment aidée pendant toute cette période à me sentir mieux. Parce qu'avant ça, je n'avais vraiment plus envie de rien faire, plus envie de voir personne, même mes amis proches, plus envie de téléphoner à personne. Enfin, vraiment, j'étais vide d'envie. Et grâce à ces prises en charge, à ces espaces de verbalisation qu'ils m'ont offerts, j'ai vraiment eu de nouveau envie de vivre, de faire des choses, de voir des gens. Et cet été, ça a vraiment été le renouveau.
Le tournant.
Ouais. Voilà, le renouveau, le tournant. Et j'ai commencé mon nouveau poste en oncologie en septembre dernier.
Est-ce que ton équipe est au courant de ce que tu as vécu, du burn-out, de la dépression ? Est-ce que tu en as parlé à ton équipe ?
J'en ai parlé à quelques-unes de mes collègues, puisqu'on m'a demandé d'où je venais, pourquoi j'étais à Paris et ce que j'avais fait avant, comme on demande à toute nouvelle arrivée dans un service. J'ai expliqué que j'étais allée en chirurgie digestive et que ça ne m'avait pas plu et que j'avais vraiment besoin et envie de retrouver l'oncologie. Toutes ces collègues sont très bienveillantes. Il n'y a jamais eu de mauvaises pensées envers moi. Elles m'ont aidée vraiment à retrouver cette spécialité que j'aime tant, à me refamiliariser avec les soins, avec les prises en charge. Et voilà, j'en parle très librement maintenant. Ça ne me dérange pas du tout. Je pense qu'on peut tous vriller à un moment donné dans notre carrière ou dans nos vies. En étant infirmière, on travaille avec l'humain et ce n'est pas toujours facile. Ça peut se trouver vraiment être très compliqué. Donc, je pense que ça peut arriver très facilement.
Ah, puis à n'importe qui, moi j'en suis certaine. Est-ce que tu as eu une sorte de, j'espère que j'emploie le bon mot, mais une sorte de syndrome post-traumatique quand tu as repris dans ce nouveau service ? Est-ce qu'il y a eu une période pendant laquelle tu avais encore parfois la boule au ventre ou encore de l'anxiété ou encore tu parlais de ce trajet de 15 minutes pour aller au travail ? Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui sont revenues ou est-ce que tu as eu l'impression de repartir à zéro tout de suite ?
J'ai eu l'impression de repartir à zéro. J'avais surtout l'impression de retrouver quelque chose que j'avais déjà vécu et qui me plaisait. J'avais l'impression de repartir en oncologie où j'étais avant avec mon équipe préférée. Et j'ai pas eu de phase où j'avais la boule au ventre, où j'avais vraiment de l'anxiété. Non, ça ne m'est pas arrivé. J'avais peur de ne pas être à la hauteur, par contre. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et puis, je suis quelqu'un qui me remet très souvent en question, peut-être trop. Donc ça, c'est toujours d'actualité, mais j'essaye de m'améliorer. Mais la dépression et le burn-out m'ont aidé à finalement passer au-dessus de tout ça et à vraiment me dire que je suis ma priorité dans ma vie et que si moi, je vais bien, le reste ira aussi.
Puis comme tu dis, on est les premiers à bien se connaître, quoi. À un moment, il faut se faire confiance, quoi. On sait comment on fonctionne, on sait ce dont on a besoin et si on ne se reconnaît pas, c'est qu'il y a clairement quelque chose qui ne va pas.
Tout à fait.
Si tu devais revivre cette situation aujourd'hui, ce que je ne te souhaite absolument pas, bien sûr, mais... Qu'est-ce que tu ferais différemment ? Est-ce que peut-être tu aurais balayé les conseils de tes amis, de ton entourage ? Est-ce que tu serais allé voir un psychologue plus vite ? Qu'est-ce que tu changerais ?
Je pense que si je devais revivre ça, je m'écouterais davantage et plus rapidement. Je ne laisserais pas traîner la situation comme j'ai pu le faire cette année. Ça m'a vraiment porté préjudice puisque le traumatisme a été encore plus fort, d'après moi, en ayant laissé traîner les choses. Je pense que j'écouterais beaucoup moins ce qu'on me dit. Parce que personne n'est à notre place, comme j'ai pu déjà te le dire auparavant, et que je me connais mieux que personne, et que si je sens que je vais mal, c'est que je vais mal.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu es encore suivie par un psychologue ?
Oui, beaucoup moins, mais oui, j'ai toujours un suivi avec cette psychologue, et plus du tout avec le psychiatre. Voilà, ça c'était surtout pour toutes les insomnies que je vivais pendant cette période, en fait. Et maintenant, plus du tout ça, juste la psychologue quand même, une fois par mois. Demander de l'aide, pour moi, c'est primordial pour s'en sortir, parce qu'il faut que ça vienne de nous et pas qu'on nous l'impose. On donne de notre temps, on donne de notre énergie, de notre personnalité. Moi, je partage beaucoup avec les patients, j'essaye vraiment de leur dire des choses sur moi, parce que j'aime créer ce lien, en fait. Ce lien d'or entre lui et moi qui fait qu'on peut avoir une relation de confiance, et c'est vraiment inestimable. Pour moi, c'est ça.
Ouais, c'est pas juste un métier, quoi. C'est pas juste quelque chose qui te rapporte de l'argent à la fin du mois. C'est une partie de ta vie et c'est pour ça qu'il faut pas la négliger. Et c'est génial d'avoir un témoignage comme le tien. Merci beaucoup parce que c'est livrer une partie de toi, c'est aussi te montrer vulnérable. Mais je suis persuadée que ça aidera des gens qui peut-être se posent des questions.
J'espère.
Et puis, tu vois, d'un point de vue personnel, je me dis, moi, c'est quelque chose que je vis pas actuellement, mais je suis contente de l'entendre aussi pour peut-être. Essayer de l'anticiper vis-à-vis d'un collègue ou peut-être si je vois quelqu'un en détresse dans le milieu professionnel. Enfin, voilà, c'est bien aussi au titre de la prévention d'entendre tout ça. Donc, merci beaucoup.
Merci à toi.
Bon, alors, on va passer sur une phase beaucoup plus légère de l'interview. Tu sais que j'aime bien réaliser un petit portrait chinois à la fin des conversations.
Oui.
Voilà, c'est pour en apprendre un peu plus sur toi. Et donc, tu peux tout à fait... calquer ces questions sur ta pratique actuelle en oncologie. Enfin, tu réponds comme tu en as envie.
Ok.
Alors, la première question, si tu avais une baguette magique, quel outil voudrais-tu inventer pour t'aider dans ta pratique ?
Alors, ce serait comme une petite horloge pour nous donner des bonus de temps, parce qu'on en manque toujours, même si la journée dure 12 heures.
J'adore. Un peu comme dans les Sims.
Oui, voilà, tout à fait.
On ralentit le temps, on s'accélère un peu, c'est une super idée.
C'est ça.
Question suivante, la phrase que tu prononces le plus dans ton métier.
Alors, c'est en parlant aux patients, je leur dis souvent « regardez-moi dans les yeux », parce que c'est pour moi, c'est important de tisser un lien avec eux, comme j'ai déjà pu te le dire. Ça permet vraiment de recentrer l'attention et de lier quelque chose.
Ensuite, si tu étais un médicament ?
Alors, ce serait le millepertuis, parce qu'on me l'a beaucoup conseillé pendant ma période de crise, et j'en ai pas consommé. Consommé, on dirait une drogue.
Ce sont des plantes, hein, on est bien d'accord.
Ce sont des plantes, oui, oui. En fait, ça réduit le stress et la dépression.
D'accord,
de façon naturelle, oui.
C'est vrai qu'avant de passer sur un traitement plus lourd, ça peut être intéressant de se pencher sur tout ce qui est phytothérapie.
Oui, oui.
Question suivante, plutôt thé ou café ?
Café. Sans hésiter. Des jerrycans de café, s'il vous plaît.
Oui, carrément. Ensuite, plutôt crocs ou baskets ?
Crocs à paillettes.
Ah, j'adore. Parce qu'on a tous besoin de paillettes dans notre vie, quoi.
Oui, moi j'adore les paillettes, que ce soit sur les crocs, dans les stylos ou autre, j'adore ça.
Ah ouais, je valide complètement. Et la dernière question, mais je pense que j'ai déjà une petite idée, ouais. 10 ans dans le même service ou 10 services en un an ?
10 ans dans le même service si c'est l'oncologie.
Ouais. Bon, t'as trouvé ta voie alors, c'est vraiment...
Ouais, je sais pas si je ferai ça toute ma vie, honnêtement, mais j'espère le plus longtemps possible parce que c'est ça qui me nourrit, c'est ça qui nourrit mon... ma façon d'être, voilà, je relativise énormément dans ma vie personnelle parce que je travaille en oncologie. On voit tellement de choses horribles à vivre qu'en dehors, rien n'est grave. Mais rien.
Ah ouais, ça remet vraiment tout à zéro, quoi. Ça remet les compteurs à zéro.
Oui, oui, c'est ça.
Et finalement, malgré le fait d'avoir démarré par cette spécialité, et tu disais qu'en tant que toute jeune diplômée, tu trouvais que c'était dur d'être avec ses patients, leurs histoires, etc. C'est malgré tout le service dans lequel tu t'épanouis le plus.
Oui. Parce qu'en fait, j'ai choisi cette spécialité parce qu'en deuxième année, j'ai vécu un décès difficile dans un service où j'étais en stage. Une personne que j'ai retrouvée décédée dans son lit le matin quand j'allais lui faire sa prise de sang. Et pour moi, ça a été très difficile à vivre parce que chez moi, dans ma famille, on ne parle pas de la mort. C'est assez un sujet tabou. Du coup, je me suis retrouvée avec mon plateau de prise de sang devant cette chambre à ne pas pouvoir avancer alors que je voyais très bien que la patiente était décédée. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire mon mémoire sur les émotions face à la mort et que j'ai choisi d'aller travailler en oncologie par la suite. Je pense qu'il faut faire confiance au destin et il faut prendre la voie qu'on nous offre. Et pour moi, ça s'est passé comme ça parce que ça devait se passer comme ça.
Ce que j'entends dans ton discours aussi, c'est que finalement, malgré cette épreuve que tu viens de traverser, t'as pas de regrets quand même d'avoir vu ce que c'était, d'être passé par cette phase si compliquée, parce que maintenant, t'en ressors grandi d'après ce que tu dis.
Oui, la dépression et le burn-out, je pense que ça m'a fait grandir, ça m'a fait passer à autre chose, ça a juste remis les choses à leur place, les pendules à l'heure. J'accorde beaucoup d'importance à certaines choses auxquelles je ne pensais pas avant. Voilà, ça a évincé beaucoup de personnes dans ma vie qui n'ont pas pu comprendre ce que je vivais ou qui ont eu des paroles terribles envers moi. Et je les remercie parce que grâce à elles, j'ai avancé et j'ai aucune colère ou aucune rancune envers elle parce que maintenant, je me sens bien et je suis heureuse, en fait. Voilà.
Bravo de réussir à ressortir autant de positif d'une épreuve pareille.
Il faut, je pense, ouais, parce que sinon, quand on dit dépression, ça fait tout de suite très peur. Et on s'imagine des personnes en dépression comme des personnes au fond de leur lit qui ne veulent plus en sortir et plus voir le monde extérieur, ce que j'ai vécu, hein. Mais c'est pas que ça. Une dépression peut porter un sourire, peut sortir tous les jours, peut aller travailler, parce que si la personne ne se l'avoue pas, c'est compliqué, quoi. Et puis tant qu'on n'en parle pas, pour certaines personnes, ça a été mon cas, ça veut dire que ça n'existe pas. Voilà, donc à partir du moment où on verbalise la chose, elle prend forme et elle existe.
Et on en ressort plus fort, comme tu es en train de nous le prouver.
Oui, oui, c'est ça.
Bon, bah Marine, je crois que je te remercierai jamais assez d'avoir...
Merci à toi, vraiment, parce que moi aussi, je voulais vraiment beaucoup en parler de ce sujet qui me tient énormément à cœur.
Ouais, on le sent.
Oui, et je voulais vraiment aider les personnes qui se trouvent dans cette situation ou qui se le rendent qui s'en rendent pas forcément compte ou qui ont du mal à s'en sortir. Je voulais juste leur dire qu'elles ne sont pas seules, qu'il faut absolument demander de l'aide si elles en ont besoin et que l'arc-en-ciel est au fond du... Attends, je voulais faire une belle phrase. Après la pluie, le beau temps, quelque chose comme ça.
Bah ouais, c'est parfait. Oh, écoute, on va finir sur ça. Je trouve que c'est parfait. Après la pluie, vient le beau temps.
Oui.
C'est une très très belle morale d'histoire. Je te remercie, Marine.
Merci beaucoup à toi.
Et puis je te souhaite le meilleur pour la suite, mais ça m'a l'air très très bien parti.
Merci beaucoup.
À bientôt, Marine.
À bientôt.
Merci encore à Marine d'avoir su mettre les mots sur cette période difficile. Elle a su nous prouver qu'en effet, après la pluie, le beau temps arrive toujours. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, @compressesparadrap.podcast, afin de découvrir les coulisses des enregistrements, mais aussi des infographies et autres partages sur le milieu médical et paramédical. À très bientôt.